Merci et bienvenue. Et c'est le quatrième et dernier cours d'aujourd'hui. Et la responsabilité professionnelle et médecine légale. Et je vais commencer. L'ascension du médecin au rôle de figure d'autorité dans le système judiciaire romain est inséparable des processus plus larges de professionnalisation et de différenciation à partir du IIIe siècle avant notre ère. Ces processus étaient motivés à la fois par des innovations internes à la discipline et par des facteurs externes tels que l'expansion de la ville de Rome, la croissance de l'économie romaine, l'impérialisme romain, l'introduction de nouveaux éléments de loi, comme la Lex Aquilia, et les interactions culturelles des Romains avec d'autres cultures, principalement grecques. En retour, la professionnalisation et la différenciation créent également des attentes pour des normes plus élevées lors de l'emploi des travailleurs qualifiés. En effet, la Lex Aquilia, qui jeta les bases du droit romain de la responsabilité civile, ouvrit la voie à la responsabilité professionnelle et au recours à des agents de diverses disciplines pour l'évaluation des pertes en fin des rémunérations. Ces cours visent à examiner le rôle du dialogue entre les droits positifs de la responsabilité civile et les disciplines connexes en tant que moteur de l'évolution dans tous les domaines connectés. La Lex Aquilia percevait la responsabilité professionnelle à travers le prisme de répartition des risques et non de la culpabilité ou de la fraude. De même, la Lex Aquilia imposé aux professionnels qualifiés qui ne parvenaient pas à accomplir la tâche pour laquelle ils avaient été engagés, une obligation et non une punition. La pertinence de l'image de soi, du titre et des compétences de l'entrepreneur ne se limitait pas à la Lex Aquilia et ses développements ultérieurs. Les développements contractuels applicables au commerce du vin se sont également appuyés sur des arbitres professionnels pour régler les différends, introduire un mécanisme fiable de répartition des risques dans les transactions de biens futurs et offrir aux vendeurs du droit de retour en cas de défaillance. Ce cours a deux objectifs. Tout d'abord, il voudrait faire valoir que l'histoire de la responsabilité professionnelle en vertu de la Lex Aquilia est mieux vue et perçue comme une image miroir de l'histoire de la médecine légale. Comme l'apparition des experts médicaux légaux, l'imposition de la responsabilité professionnelle aux travailleurs qualifiés exigeait une reconnaissance de leur discipline elle-même, une hypothèse selon laquelle leur emploi allait en soi dans certaines circonstances et que leur reconnaissance ne posait aucune difficulté. Autrement dit, leur habitus était bien défini. Le deuxième objectif de ce cours est de replacer les relations dialectiques du droit positif et de la médecine légale dans le contexte plus large de l'économie de marché. Enfin, une étude de l'étendue des actions aquiliennes pour faute professionnelle offre l'occasion de réexaminer la question de savoir si le droit romain faisait une distinction entre ce que les juristes modernes appellent locatio conductio operarum et locatio conductio operis. La lex aquilia de damno injuria dato régit les actions des demandeurs qui subirent une perte ou un préjudice entraînait une responsabilité juridique pour une autre personne. Alors qu'à l'origine, la lex aquilia concernait un nombre limité de ces préjudices, ses élaborations ultérieures par les juristes classiques rendaient la lex aquilia applicable également au cas de négligence, de perte financière, de préjudice, d'atteinte à la vie privée et bien d'autres choses encore. Étant plébiscite, la lex aquilia fut promulguée après la lex Hortensia de 287 avant Jésus-Christ, très probablement en réaction des troubles sociaux. La loi originale comportait trois chapitres, mais seuls les premiers et les troisièmes survécurent jusqu'à l'époque classique. Le deuxième chapitre, qui rendait responsable un créanceur commun qui libérait frauduleusement un débiteur, est vite devenu obsolète. Le premier chapitre de la lex aquilia rendait toute personne ayant illégalement tué, ça veut dire par injuria, un esclave ou un animal de ferme d'une autre personne, responsable de la valeur maximale des biens détruits au cours de l'année précédente. Le troisième chapitre de la loi étendit la responsabilité légale des délits ou des dommages causés par un incendie, une démolition ou des actes de violence dans la mesure où ces dommages sont fiscalement quantifiables. La lex aquilia, également introduit ici dans la jurisprudence romaine la notion de responsabilité professionnelle avec l'obligation d'accord. Si un élingueur tailla des arbres sur une voie publique ou à proximité, devait causer la mort d'un esclave par un arbre tombé, il n'aurait engagé la responsabilité à Kilian que s'il n'avait pas pris les mesures de sécurité acceptables que sa profession lui dictait. L'examen de la responsabilité à Kilian pour les services rendus par des professionnels apporte un éclairage nécessaire sur la signification de la et la référence des professionnels en tant que catégorie juridique, mais aussi sur la différence ou la concurrence entre les actions issues de la lex aquilia et celles issues des contrats de locatio conductio. Un examen critique des aspects aquiliens de la faute professionnelle montra que la catégorie des professionnels prenait le sens d'individus qui s'engageaient sous la forme d'une locatio conductio à accomplir une tâche pour laquelle tant eux que leur employeur se présumaient particulièrement qualifiés. La lex aquilia soumettait les professionnels aux normes du secteur. Sa formulation supposait implicitement une pratique courante et un certain niveau d'attente de la part de ses clientes. Ainsi, les chirurgiens étaient tenus à un devoir de diligence après une opération. Enfin, cette association entre la procédure chirurgicale elle-même et les devoirs de diligence qui s'ensuivit nécessairement constituait la base de l'admonestation du clergé par le pape Innocent III dont nous avons parlé plus haut, ça veut dire dans mon premier cours. La lex aquilia tient également les médecins responsables de l'administration de materia medica malsaine. En fait, ces signaux de la part des médecins en tant que seul groupe de professionnels compétents dans l'administration de la matière médicale et responsable d'éventuels dommages par la suite, faisant partie de l'héritage romain du code wisigoth et du droit canonique. Un muletier était censé contrôler ses mules, même dans les conditions difficiles et sans exception. En fait, comme le souligna Susan Martin, la responsabilité éventuelle des muletiers encourageait les juristes romains à formuler des lignes directrices générales pour sa garantie contractuelle des compétences et la répartition du risque. Tous ces cas démontrent un niveau de responsabilité plus élevé entendu d'une professionnelle et l'exclusion de l'incompétence comme motif de défense. Aux yeux de la loi, l'imperitia d'une professionnelle est équivalente à la culpa. Les juristes Mela et Ulpian accordèrent un actio de ex locato contre un propriétaire qui proposa un muletier inexpérimenté pour un muletier qualifié. Si pro perito imperitus locatus sit. La transformation de l'imperitia en une catégorie juridique était nécessaire pour une garantie des compétences. Et ce point de vue n'était pas réservé aux médecins. Labeo, le juriste Labeo, fit une actio in factum contre un tonnelier chargé de réparer une tenue de vent alors qu'il était plein et le fit éclater, ce qui entraîna la perte de vent. À l'instar d'un chirurgien qui ne respectait pas les normes de son secteur d'activité, la responsabilité acquise du tonnelier implique que l'on peut s'attendre à ce qu'un professionnel maîtrise sa profession. Contrairement à des mécanismes de rémunération moins sophistiqués, qui offraient une rémunération fixée d'un chaque délit, la responsabilité acquise n'était pas attentive aux conventions et au contexte social. Justinien démontra ce principe en prenant l'exemple d'une personne qui avait involontairement tué un esclave alors qu'elle s'entraînait au lancer de javelot. Si l'accident était survenu à un soldat et alors qu'il s'entraînait dans un endroit approprié, il n'aurait pas été jugé responsable. On suppose que sa vocation l'obligeait à pratiquer et que le grand public avait connaissance de telles activités qui se déroulaient dans des zones désignées. Toutefois, un non-professionnel qui n'aurait pas pris des mesures de sécurité raisonnables aurait été responsable en vertu de la Lex Aquilia. L'identité de l'auteur de l'infraction fut-on déterminant pour établir la responsabilité. Les juristes romains, à partir de l'époque classique, virent un lien intrinsèque entre la responsabilité acquise et la diligence professionnelle. Un médecin qui manquait son devoir de diligence envers un esclave qu'il opérait après la fin de la procédure était coupable. De même, Ulpian accepta la position de Julien, selon laquelle un professeur qui avait un élève décédé sous sa responsabilité était responsable de la Lex Aquilia. On attendait du médecin et du professeur qu'ils fassent preuve d'un niveau de compétence et de soins adéquats. Il semble que la pierre angulaire de cette responsabilité était l'existence d'une obligation de locatio conductio. Sa création signifiait l'acception consciente d'une responsabilité professionnelle pouvant donner lieu à une action au nom de l'entrepreneur. Concrètement, elle rendit un professionnel engagé responsable lorsqu'il ne répondait pas aux normes du secteur. Ainsi, l'exemple des médecins permit à Justinien de souligner le devoir d'un professionnel en tant qu'expert engagé. Toutefois, ce type de responsabilité professionnelle n'était pas exclusif aux médecins et était également attribué aux arpenteurs géomètres, aux architectes et peut-être aux producteurs du vin. L'accent mis sur les médecins nécessite une clarification de la notion d'artes liberales en tant que catégorie juridique, notamment dans le contexte des obligations de locatio conductio, car les médecins furent souvent inclus dans ce groupe. Le terme lui-même était utilisé par Cicéron et Sénèque, Quintilianus et peut-être le juriste Paul. Il avait été suggéré que le membre des professions inclus dans ce groupe, comme professeur de grammaire, de médecine, de rhétorique, de droit, d'arithmétique, de géométrie et de musique, était traditionnellement exclu du confinement du contrat formé. En termes de rémunération, il fut également suggéré que les membres de ces professions ne recevaient pas de salaire, merkes, pour leur travail. Ils étaient plutôt rémunérés sous forme de honorarium. Toutefois, de nombreux éléments indiquent que les médecins reçurent des salaires, ça veut dire merkes, pour l'exercice de leur discipline. De leur côté, Jan Thomas, Imre Molnar, Reinhard Zimmermann, Dieter Nohr et Roberto Fiori préférèrent considérer les artes libérales comme une catégorie philosophique d'origine stoïque qui n'a pas d'implication juridique directe. En outre, la division de la conduite professionnelle en deux groupes, l'un qui est rémunéré par des merkes et l'autre qui ne peut recevoir que des honorariums, est incompatible avec la conception romaine du contrat. Les médecins étaient chargés de fournir un service en utilisant des contrats que certains juristes romains définissent comme des contrats de locatio conductio operis, qui ne devaient pas être confondus avec les contrats de locatio conductio operarum. Je vais expliquer. Et la distinction entre les deux s'articule autour des qualifications de l'emploi de l'employé et les attentes des deux patientes. Dans une locatio conductio operarum, l'employé met son temps et son pouvoir à la disposition du locataire. Il n'est donc responsable que des fautes commises par malveillance et doit être rémunéré indépendamment du succès de son entreprise. En revanche, dans une locatio conductio operis, l'employé est engagé pour ses compétences et ne peut pas atteindre ses émoluments, ça veut dire merkes, qu'à l'achèvement de la tâche que le contrat définit par écrit. À défaut, l'employé est exposé à un acte d'inexpérience que la loi assimile à la culpa. Imperitia culpae ad munerato. En vertu d'une obligation de locatio conductio operis, le salarié est responsable des pertes qui pourraient survenir pendant le travail, car il est supposé avoir les compétences nécessaires pour mener à bien la tâche. Les professionnels qui interprirent de tels contrats étaient censés avoir des compétences et de l'expertise. Leur volonté de s'engager dans une obligation de locatio conductio les privait d'une défense de l'imperitia. Le juriste romain Celsus, en discutant de l'attendu de la responsabilité à Quilien, expliqua que l'incompétence entraînait une responsabilité. Par conséquent, un médecin qui causa la mort de l'esclave d'une autre personne en pratiquant une opération chirurgicale ou en prescrivant les mauvais médicaments est responsable en vertu de la lex Aquilia. En tant que professionnel, on attendait de lui un niveau de compétence plus élevé et il ne sera certainement pas ignorant de la présence. Les recours en cas de faute professionnelle définissent le champ d'application de la responsabilité professionnelle. Ils permettent également aux chercheurs modernes de savoir ce que l'on peut attendre des membres d'une certaine profession. Ainsi, la mise en place d'une actio in factum contre les géomètres qui émettaient un rapport frauduleux est une indication de la dépendance croissante à l'égard de cette profession et de ses agents. Ulpian supposa que toutes les transactions immobilières nécessitaient l'expertise d'un géomètre et que les parties n'avaient généralement pas ces compétences elles-mêmes. Il souligna également qu'auparavant, les recours à un géomètre ne prenaient pas la forme officielle de locatio conductio et étaient donc rémunérés sous forme d'honorarium plutôt que de merges. Cependant, ce n'était pas le cas à l'époque d'Ulpian. Ce changement pourrait être le signe d'un changement du statut de l'arpentage et de ses praticiens, ainsi que de sa prévalence. Les textes sur les litiges fonciers de Controversis Agrorum, figurant dans le Corpus Agrimensorum Romanorum, montrent à quel point il était courant que le tribunal se tourne vers les géomètres professionnels et s'appuie sur eux pour régler les litiges fonciers. En menso, pouvait être abordé à la fois par les parties en litige foncier, menso propter judicum adhibitus, ou par le tribunal lui-même, adjudice adhibitus. Les preuves épigraphiques offre un soutien supplémentaire. Les tabulae Herculanses attestent qu'un géomètre fut convoqué ad hibitus pour une controversia finium. Une inscription de Histonium dans la région italienne de Samnium mentionne un arbitre ex compromisso du nom de Helvidius Priscus qui présida une controversia finium, tout en faisant preuve d'une connaissance approfondie dans le domaine de l'arpentage. Toutefois, contrairement à un géomètre engagé par l'une des parties, voire un arbitre ex compromisso, en menso adjudice adhibitus, ça veut dire convoqué par le tribunal, doit être compris comme experte en lien des prouesses judiciaires. L'implication d'un géomètre dans un litige foncier sous les Haut-Empire et au-delà était nécessaire. En outre, si un menso avait été engagé par une seule des parties, l'iudex aurait obligé l'autre partie à participer au paiement car l'avis d'un géomètre qualifié était une condition préalable au règlement d'un litige foncier. Une action possible contre un géomètre sur l'accusation de dolus malus existait dans le cadre de l'obligation de locatio conductio. Toutefois, une telle action n'est applicable qu'en cas de négligence. En outre, il appartient à l'employeur d'examiner si le géomètre qu'il emploie était compétent. Ce mode de fonctionnement rappelle le mécanisme de nomination d'un archiatros où chaque ville était autorisée à élire un médecin public et à lui conférer des privilèges, mais se voyait confier la responsabilité d'en choisir un sans que l'État n'offre aucune aide sous la forme d'un système de licence ou d'un autre type de qualification officielle. Comme pour les médecins, l'emploi du géomètre prenait la forme d'une locatio conductio operis. Pomponius mentionna deux possibilités de damnum injuria datum, à savoir les rapports frauduleux d'un géomètre soumis au tribunal. La première concerne les pertes subies par ces rapports à la personne qui les commanda dans le cadre des procédures judiciaires. La seconde concerne un rapport frauduleux commandé par le tribunal lui-même. Dans les deux cas, le géomètre est responsable. Enfin, en accord avec toutes les formes de responsabilité en vertu de la lex aquilia, le tribunal n'est proposé aucune action contre un géomètre sans preuve de perte. Ainsi, un acheteur qui a acquis un terrain sur la base d'une fausse expertise n'a d'action contre le géomètre frauduleux qui lui est produit ici que s'il subit une perte démontrable. Ensuite, le lien intrinsèque entre l'économie et la lex aquilia donna lieu à une responsabilité professionnelle quantifiable et encouragea en même temps les heures de la médecine légale. Ulpian, dont l'exergue de son commentaire de l'édit concluait digeste 11.6, supposait que cette action contre un géomètre frauduleux constituait une base pour des actions contre divers professionnels dont les compétences les rendaient inestimables. Ulpian nomma un mensor machinarius qui était responsable dans le cadre de cette action. En outre, bien que non désigné par la loi elle-même, Ulpian supposa que par association, cette action est applicable contre les pertes subies par la conduite frauduleuse d'un architecte et celle d'un comptable malhonnête. Il ne serait pas déraisonnable d'envisager une extension de l'applicabilité de cette action si et quand une certaine discipline se positionne comme précieuse. La promulgation de la lex aquilia au IIIe siècle avant notre ère précède du moins d'un demi-siècle l'arrivée des médecins grecs à Rome. Cependant, ce n'est qu'au IIe siècle de notre ère que les trajectoires du droit de la responsabilité civile et de la médecine professionnelle convergent. La chronologie de la médecine légale suit un schéma similaire. Les témoignages papyrologiques font allusion à des médecins masculins, souvent portant des titres officiels, qui ont été dépêchés par la cour pour effectuer des examens médicaux à partir du IIe siècle de notre ère. De même manière, les sages-femmes nommées par la cour présidaient aux litiges concernant la paternité ou les grossesses douteuses à partir des antonyms. L'essor de la médecine légale et l'émergence de la responsabilité professionnelle des employés qualifiés sont tous deux le résultat des processus de professionnalisation et de différenciation. La professionnalisation est avant tout une construction sociale. Elle implique la reconnaissance et l'hégémonie dans un domaine particulier. La différenciation signifie la distinction d'un groupe professionnel par rapport à d'autres groupes qui se disputent la même part de marché, et elle est à la fois ostensive et réflexive. Elle était obtenue par les récompenses telles que des titres publics, des immunités pour les liturgies et des postes élus, et des punitions telles que la responsabilité à client en cas de faute professionnelle. L'histoire de la pratique médicale dans le monde romain connaît deux impératifs majeurs. Le premier était une tendance continue d'appropriation culturelle de la société romaine, vers la culture grecque à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Cette tendance transforma la ville de Rome en amas pour les médecins grecs qui arrivèrent dans la ville à titre individuel, soit de leur plein gré, soit tant que captifs des guerres macédoniennes, et trouvèrent des postes lucratifs aux uns des élites romaines. Le deuxième élan fut la révolution romaine qui obligea les institutions romaines à traiter les médecins en bloc. César et Auguste encouragent les médecins grecs à émigrer à Rome car ils ont besoin de médecins militaires. Plus tard encore, les impéraux romains accordèrent des privilèges aux médecins dans le cadre d'une politique plus concluante consistant à s'appuyer sur les élites locales pour le gouvernement local. Dans l'Orient grec, ces élites locales se distinguaient par leur culture ou païdéa. L'échelon supérieur des médecins était inclus dans ce groupe et bénéficiait du soutien du gouvernement romain. Ainsi, l'ascension de la médecine et ses agents vers une position privilégiée sur le marché médical a été motivée principalement par des circonstances extérieures à la discipline médicale elle-même. À cet égard, l'histoire de la médecine résonne bien avec l'histoire d'au moins deux autres groupes professionnels dont les membres agissaient en tant que figures d'autorité dans les arbitrages officiels et étaient également soumis à un niveau plus élevé de responsabilités professionnelles, les géomètres et les experts en vin. Les réformes agraires et la législation à partir de Tiberius et Gaius Gracchus encouragèrent le pouvoir judiciaire romain à s'appuyer sur les géomètres comme experts judiciaires. Toutes les lois agraires de la fin de la République, depuis celle de Tiberius et Gaius Gracchus, en passant la loi agraire de 511 avant Jésus-Christ, et celle proposée par Publius Servilius Rullus en tant que tribune de 63 avant Jésus-Christ, désignèrent des comités pour leur exécution. La loi agraire de Servilius Rullus rattachait à chaque decemvir finitores ex equestri loco en tant que subordiné. Bien que les litiges fonciers aient préoccupé le système judiciaire romain depuis sa fondation, ils changèrent d'échelle et de substance à la suite de l'impérialisme romain. À l'origine, les litiges fonciers comprenaient les discordes concernant les frontières, les remises en question de la propriété, la contestation des droits communs tels que l'accès à l'eau ou les droits de passage et l'éligibilité de la propriété au fin de l'impôt. Les 12 tables prescrivent un mécanisme de 3 arbitres qui doivent être envoyés pour examiner un cas de violation présumée de frontières. En outre, l'utilisation et l'abus des terres publiques par les particuliers occupaient la politique et la société romaine depuis le début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Cependant, c'est à la suite de la grande conquête romaine des 3e et 2e siècles avant Jésus-Christ que les compétences en matière d'arpentage ont été nécessaires pour soutenir la mise en œuvre de la domination romaine sur tous les territoires nouvel acquis. C'est à ce moment-là qu'apparaît le géomètre professionnel. Un exemple d'amalgame entre les événements politiques et la nécessité croissante des géomètres pour être observé dans la division méticuleuse des Carthages, en sections carrées de terrain après son sac. Un effet plus prosaïque et de plus grande portée de l'impérialisme romain qui nécessitait un arpentage détaillé de terre à l'appui du pouvoir judiciaire romain et l'attitude romaine à l'égard des diverses formes d'appropriation du butin de guerre sous la forme de terres par une petite partie de la société romaine. En fait, Appianus fait de l'appropriation des terres italiennes la toile de fond des réformes de Tiberius et Gaius Gracchus. Comme dans le cas des médecins, l'accession de l'arpenteur à une position d'autorité incontestée dans le cas des litiges frontières ne fut pas provoquée par des développements au sein de la discipline, mais par des changements et des besoins extérieurs. Une deuxième incitation émergence de la responsabilité professionnelle et des experts médico-légaux fut l'évolution de la jurisprudence elle-même. Les innovations dans le droit positif et les changements dans le système judiciaire lui-même, comme la domination croissante de la procédure de cognitio extraordinaria ou cognitio extraordinem, et la confiance grandissante des empereurs dans les jurisprudentes pour la composition des jugements transformait le tribunal agonistique du milieu et de la fin de la République en tribunal scientifique ou professionnel. Les tribunaux agissaient sur la base des lois et de la preuve et non de la persuasion elle-même. ironiquement, le passage d'un tribunal agonistique à un tribunal fondé sur la jurisprudence imposa également une démarcation entre les questions de droit et les questions de fait. La résolution des différends factuels, en particulier ceux qui nécessitaient des compétences particulières, étaient de plus en plus délégués par les juristes à des experts des disciplines concernées. En son tour, les cadres aquiliens et la nature casuistique de la justice romaine étaient suffisamment souples pour appliquer des normes industrielles à tous les travailleurs qualifiés sans avoir à inclure chaque discipline dans la loi par son nom. La responsabilité professionnelle pouvait être perçue comme une image miroir de l'expertise judiciaire. Les personnes soumises à la responsabilité professionnelle, en vertu de la Lex Aquilia, étaient celles dont l'emploi semble aller en soi et même être nécessaire. Enfin, si l'existence d'une habitus et d'une différenciation entraîne une responsabilité aquilienne en cas de faute professionnelle ou d'imperitia, cela donne un nouveau sens à la distinction présumée entre locatio conductio operis et locatio conductio operarum. La première impliquait une responsabilité aquilienne, la seconde n'impliquait pas. Merci beaucoup.